auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour 3 heures d'émission en direct. Comme à l'habitude de partie, nous recevons tout d'abord Georges Ayache, qui est historien, pour son livre qu'il publie aux éditions Perrin, Les Roosevelt, une dynastie américaine. Et ce soir, nous allons plus particulièrement parler, nous avons évoqué lors d'une première émission avec notre invité la mémoire et l'histoire de Theodore Roosevelt, le premier grand de cette dynastie. Et nous allons plus particulièrement ce soir évoquer Franklin Delano, qui est un cousin à la 5e génération. Et puis, bien entendu, si on évoque Franklin, il faut évoquer sa femme, Éléonore, est impossible de les dissocier, bien qu'ils ne se soient pas très bien entendus dans leur couple. Et puis nous évoquerons aussi quelques enfants de Théodore, plus particulièrement Alice et Ted, hein, qui se sont illustrés. Et eux tous, ils forment cette fameuse dynastie américaine des Roosevelt, dont Georges Ayache raconte l'histoire dans ce livre passionnant aux éditions Perrin, parce que c'est aussi l'histoire des États-Unis. Et en deuxième partie, à 19h30, nous recevons François Cochet, qui lui aussi est historien et qui a écrit dans cette nouvelle Histoire de France, publiée aux éditions Passé Composé sous la direction d'Éric Anceau, eh bien, le chapitre consacré à la Grande Guerre, parce que François Cochet est un historien spécialiste d'histoire militaire et spécialiste donc de cette période. Nous n'avons personne au standard. Et donc nous ne pourrons pas prendre vos messages par téléphone. N'hésitez pas surtout à les envoyer par courrier électronique. Nous les proposons à nos invités. Je rappelle le mail de la radio, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. N'hésitez surtout pas, chers auditeurs. Et nous abordons donc maintenant la première partie de cette émission. L'histoire des États-Unis est indissociable de celle d'un certain nombre de ces nouvelles dynasties, comme une nouvelle aristocratie. Ces dynasties peuvent être plus traditionnelles et politiques, parfois arrivées avec le Mayflower ou dans le sillage des pèlerins du Mayflower, ou d'autres sont moins anciennes et fondées plutôt sur les affaires et sur la fortune. Il en est ainsi des deux plus fameuses d'entre elles, car elles marquèrent la politique américaine du XXe siècle, pour s'éteindre, en tout cas pour celle des Kennedy, dans la violence et l'assassinat. Et puis elle s'est éteinte en ce qui concerne les Roosevelt, faute tout simplement d'une relève suffisamment ambitieuse ou attirée par la politique pour prendre justement la succession de leurs brisants aïeux. Alors quand on pense, quand on évoque les Roosevelt, quand on pense aux Roosevelt, eh bien tout d'abord nous pensons à Franklin Delano, qui fut le 32e président des États-Unis sur une longue période, de mars 1933 jusqu'à sa mort le 12 avril 1945. Et il reste bien sûr le plus célèbre des Roosevelt, de sa dynastie, mais pas l'unique membre de ces éminents, de cette impressionnante dynastie. Il faut bien sûr citer tout d'abord Théodore, qui fut le 26e président des États-Unis de 1901 à 1909, et qui, bien que républicain, fut le modèle de son lointain parent et descendant, si l'on peut dire, issu de l'autre branche des Roosevelt, donc Franklin Delano. Théodore est plus oublié. Et néanmoins, il marqua par sa présidence l'histoire de son pays, mettant en œuvre notamment la fameuse doctrine Monroe avec l'annexion du canal de Panama. Sa fille Alice, dont nous parlerons aussi ce soir, autre personnage flamboyant de cette dynastie, reprochera toujours à Jimmy Carter d'avoir défait l'œuvre de son père, puisqu'il accorda l'indépendance complète, notamment en rattachant le canal de Panama, ou ou à l'État de Panama, eh bien, Donald Trump, et c'est lui, maintenant, de reprendre le contrôle, de restaurer l'autorité des États-Unis sur ce canal, puisqu'il travaille à en chasser les Chinois qui ont pris le contrôle de l'entrée et de la sortie du canal. Nous avions consacré une première émission, il y a quelques semaines, à cette dynastie, et tout d'abord au premier plus fameux d'entre eux, donc Théodore, et nous poursuivons donc ce soir autour du personnage de Franklin et Delano. Et comme je vous le disais, nous n'oublierons pas aussi les enfants de Télanor, qui lui sont contemporains, qui n'eurent certes pas le destin de leur père, mais menèrent une vie digne d'éloge à l'exemple de son courageux fils Ted, et qui participera au débarquement, ainsi que le petit-fils de Théodore sera sur Omaha Beach. Et la flamboyante, bien sûr, Alice. Évoquer Franklin, c'est aussi évoquer sa femme, Éléonore, qui fut, alors c'est un peu étonnant quand même, parce qu'elle a une vie quand même un peu particulière, elle fut la femme la plus populaire des États-Unis en son temps. Alors nous posons cette question aussi à notre invité, Georges Ayache, sur quoi était fondée la popularité d'Éléonore Roosevelt, qui avait pourtant une jeunesse très effacée, complètement dans le sillage de son futur mari. Éléonore, Franklin, ce furent deux réussites politiques, mais certainement pas des modèles familiaux, tant leur couple fut désuni et de façade, et cela eut d'ailleurs des conséquences désastreuses sur l'équilibre de leurs enfants, dont certains connaîtront un destin dramatique. C'est cette histoire que nous abordons ce soir, donc, en compagnie de notre invité, chers auditeurs, Georges Ayache, hein, pour ce livre, Les Roosevelt, une dynastie américaine, qu'il publie aux éditions Perrin. Georges Ayache, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, je suis... D'abord, je vous remercie, vraiment merci d'être avec nous ce soir, en direct dans le studio. Nous accueillons avec grand plaisir.
C'est réciproque.
Une suite hein, à la première émission consacrée à Théodore. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes écrivain, politologue, avocat, vous êtes ancien diplomate, vous avez une vie professionnelle extrêmement riche et variée. Vous êtes aussi docteur en sciences politiques, avec une mention en relations internationales. Vous avez écrit de nombreux livres, et notamment des livres sur la société et la politique américaine. Alors je rappelle ces livres, et après, c'est quelques-uns de ces livres, parce qu'il y en a, donc il y en a plusieurs. Je vous poserai la question, mais pourquoi cette inspiration, pourquoi cet intérêt pour la vie politique et la société américaine ? Est-ce que parce que vous l'avez côtoyé, vous y avez séjourné, enfin, qu'est-ce qui vous a mené à tomber dans ce piège? Ce n'est pas un piège.
Non, mais c'est
mais en tout cas, dans cet intérêt qui nous vaut des livres d'ailleurs passionnants. Alors, je rappelle, parmi ces livres passionnants, il y a toujours chez Perrin, Kennedy, Vérités et légendes, Joe Kennedy, Le pouvoir et la malédiction chez Perrin, toujours en 2008. Joe Kennedy qu'on croise d'ailleurs hein, dans ce livre consacré à la dynastie des Roosevelt. Vous avez écrit bien sûr La chute de Nixon chez Perrin. Un livre sur Moshe Dayan, héros de guerre et politicien maudit chez Perrin. Et puis bien sûr ce livre que nous évoquons ce soir, Les Roosevelt. Et puis, la première élection moderne de l'Amérique, donc celle de 1960, qui a opposé Nixon à Kennedy. Ça, c'est encore chez Perrin. Et puis, tout récemment, un livre passionnant sur la crise des missiles à Cuba. Cuba 1962, la crise des missiles. Et là encore, c'est chez Perrin en 2025. Genre, je vous pose cette question, donc, effectivement, sur votre intérêt fort hein, pour la vie politique et la société américaine. Et puis je vous poserai une autre question aussi, parce que il semblerait que Cuba soit sous une très forte pression américaine, et pensez-vous que cette crise qui a été commencée par la chute de Batista, hein, et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, va se dénouer dans les mois qui viennent. Alors, première question, le tropisme américain.
Le tropisme américain, d'abord, bon, j'ai été diplomate, comme vous l'avez rappelé, et j'étais en poste aux États-Unis pendant 2 ans, à New York, à l'antenne française, à la représentation permanente française auprès des Nations Unies. Et donc, j'ai adoré cette période, si vous voulez. En historien, j'ai fouiné un peu partout, dans les rues, qui rappelaient des souvenirs, etc. Et donc, l'attrait littéraire, si on peut dire, pour les États-Unis, c'est la faute de mon éditeur. C'est Benoît Hiver qui m'avait commandé un livre comparé entre Nixon et Kennedy, « Les meilleurs ennemis ». Et donc, j'avais tellement aimé écrire ce livre que ça m'a entraîné à faire d'autres recherches et à trouver d'autres aspects, puisque l'un des aspects les plus importants après, ça va être une biographie de Frank Sinatra. Et là aussi, on aborde la politique par tous les moyens, y compris avec Roosevelt, hein, puisque Sinatra a été invité plusieurs fois à la Maison-Blanche par Roosevelt, pour prendre le thé, etc., parce qu'il était très engagé du côté démocrate, alors qu'il avait 20 ans, 22 ans, il était très jeune. Et donc, de fil en aiguille, j'ai déroulé un peu les chevaux de ce qui était la famille Kennedy. Et puis, après, je voulais faire une biographie de Theodore Roosevelt, qui est, comme vous le savez, mon préféré. Et c'est là encore l'éditeur s'en est mêlé, mais à juste raison. Hein, les deux fois,
si vous faites Théodore, il faut faire des Lanoux.
Il a été dans le bon sens les deux fois. Et il m'a dit, mais pourquoi ne ferais-tu pas un livre sur la famille Roosevelt? Je dis, c'est pas du tout la même chose, hein, entre une biographie d'un homme et puis d'une famille, d'autant plus que là, il y avait deux parties. Bon. Et puis finalement, il avait raison, parce que c'est passionnant à faire des recherches, à écrire, à voir les connexions qu'il y a pu avoir récemment, parce que les deux dynasties, les deux branches de la dynastie ont évolué en parallèle pendant des siècles, hein, avant de se réunir par hasard avec Théodore et avec Franklin et Éléonore. Voilà. Donc voilà un peu l'attrait pour l'Amérique qui ne se dément pas et qui va se poursuivre cette année, puisque je vais sortir un livre sur la mafia en Amérique, qui aussi va nous entraîner à parler de la politique, de Roosevelt en particulier.
Votre préféré, c'est Théodore ?
Ah oui. Oui, parce que c'était ce n'est pas que je dénigre Franklin. Il est exceptionnel, et puis son record, sa longévité au pouvoir ne sera pas battue, hein, forcément. Mais il est le premier à avoir donné ses lettres de noblesse à la présidence. Il y a eu des présidents forts avant lui. McKinley, d'ailleurs, son prédécesseur, avait quand même une stature.
Il apprécie beaucoup Donald Trump, je crois.
Oui, c'est ça. Non, il avait une stature, et d'autres, évidemment, avant lui, sans parler de Lincoln, mais lui incarne la présidence moderne. C'est lui qui crée la Maison-Blanche, d'ailleurs. C'est Théodore. Donc, c'est après que ça va repartir sur de nouvelles bases. C'est la présidence moderne de l'Amérique qu'il inaugure, et c'est une césure dont tous ses successeurs vont s'inspirer.
Et puis, deuxième question, et puis nous arriverons bien sûr au cœur de notre sujet ce soir, Franklin et Éléonore, et puis aussi les enfants de Théodore, parce que certains ont eu un destin vraiment exemplaire, hein, remarquable. C'est un peu autre chose avec les enfants de Franklin. Hein, on le voit dans cette photo, c'est la photo que vous présentez en couverture de votre livre.
Là, c'est la famille de Franklin.
On a l'impression d'avoir une famille extraordinaire. Il y a Franklin et Éléonore, tous ces petits-enfants autour d'eux, on a l'impression d'une famille modèle. Puis en fait, quand on rentre dans le destin de chacun, c'est affreux. Certains avec des suicides.
Comme vous le disiez il y a quelques instants, Franklin et Éléonore ne sont pas occupés de leurs enfants. Éléonore n'avait pas le sens maternel.
C'est ça aussi que vous expliquez. Hein,
Franklin faisait ce qu'il pouvait, mais enfin, il était président, il ne pouvait pas être au four au moulin. Là, il y a un contraste avec Théodore, pour le coup.
Oui.
Théodore et sa femme sont occupés de manière très étroite de leurs enfants, tant Alice, qui est née d'un premier mariage, que les quatre autres qui ont suivi avec Edith, la deuxième femme de Théodore. Et là, effectivement, il y a une unité, une cohésion dans la famille, dans cette branche de famille, qui n'y a pas chez
Franklin. Il n'y a pas du tout chez Franklin. C'est assez impressionnant. Alors, je voulais vous, quand même, avant que nous abordions donc ce sujet, évoquer avec vous Cuba, parce que c'est un sujet que vous avez traité, bien sûr, hein, avec la crise de Cuba, nous avons reçu précédemment, hein, autour donc de votre ce dernier livre hein, que vous aviez consacré à la crise, Cuba 1962, la crise des missiles. C'est un livre qui date de l'an dernier, que vous avez édité chez Perrin, dans lequel vous relatez tout le déroulement de la crise et le sang-froid dont Kennedy a su faire preuve, dans un sang-froid très impressionnant.
Il a été remarquable.
Parce que on était au bord d'un échange de missiles nucléaires.
Ah oui, on était tout à fait au bord et ça aurait pu être dramatique.
Et vous racontiez que Kennedy avait été un peu porté une voie très, très isolée, qui est celle de la négociation, de la patience et de mesures progressives. Plutôt que d'éclencher un feu nucléaire.
Il était pratiquement seul.
Hein. Oui, c'est ce que vous avez expliqué dans votre livre.
Au début, il y a beaucoup de gens très éminents, Robert McNamara, qui était secrétaire à la Défense, ou son frère, Bobby, qui ont évolué, non pas parce qu'ils sont tournevesse, mais parce que la situation les incitait à prendre telle position. Il n'y a que le président qui n'a jamais varié.
Oui, c'est ça.
En son fort intérieur, il savait où il voulait aller, et là, il a révélé effectivement des talents, une dimension d'homme d'État. Hein.
Oui, vous le montrez très bien
on pouvait pas soupçonner avant.
Dans ce livre, ce, presque minute par minute.
Il a changé de dimension à partir de là, c'est clair.
Et donc je voulais vous poser cette question, parce qu'on parle l'actualité, parle à nouveau de Cuba avec les très fortes, il y a de nouveau un blocus américain d'ailleurs, qui est en place, puisque le pétrole n'arrive plus, par exemple, et les cuves sont vides.
Non, c'est un pays exemple.
Et pensez-vous que savoir de l'effet, ce serait bien la première fois que des mesures... Et de sanctions économiques est un effet réel.
Oui, je pense que ça aura un effet parce que les principaux soutiens de Cuba sont effondrés. D'abord l'Union soviétique, et puis le Venezuela, récemment, qui fournissait quand même le pétrole. Et donc, ils se retrouvent sans source d'énergie, dans un marasme incroyable. Et là, il va se passer quelque chose. Le régime, là, il risque de tomber pour le coup.
Quelle forme ça pourrait prendre?
Ou d'évoluer. Non, pas forcément violente. Hein. C'est un régime qui pourrit de l'intérieur, tout simplement. Ça aura mis quand même 60 ans avant de...
Mais quand on lit les informations sur ce pays, on a une police politique qui est toujours très présente, avec les prisons, population qui est surveillée, tenue.
Oui, mais jusqu'au bout.
Pas de manifestation. Vous pensez que ça peut tenir encore longtemps?
La révolte de la faim, on ne peut rien comprendre.
Oui, c'est vrai que... Oui.
Voilà, si les denrées n'arrivent plus, les sources d'énergie se tarissent, le régime n'en a plus pour trop longtemps. Ce qu'on disait pour l'Iran, d'ailleurs. Si économiquement, ils sont sur le bord de l'effondrement, ils ne tiendront pas longtemps, quelle que soit la vigueur de la répression, etc. Bon, on n'en est pas là du côté iranien, malheureusement. Mais du côté cubain, oui. Oui, là, c'est possible. D'ailleurs, ils ont cessé leur diatribe contre le Satan américain, etc. Ils négocient comme ils peuvent.
C'est ça.
Parce qu'ils n'ont plus le choix, malheureusement.
Et vous pensez que la transition pourrait être pacifique, un départ des Castro et...
Ils ne partiront pas, mais ils mettront de l'eau dans leur vin, d'une part, et d'autre part, ça ne prendra pas des formes violentes. On n'en est plus là. On n'est plus là. Donc... chacun s'accommodera d'une nouvelle situation, étant entendu qu'on ne reviendra pas à la situation hantée. On ne reviendra pas à 1959, où Cuba était le terrain de jeu de l'Amérique, les casinos, tout ça. Bon, ça, c'est terminé.
On ne le verra pas, c'est ça. Terminé, ça il ne pourrait pas.
La révolution castrice.
Porto Rico, une sorte d'État sans le nom, quoi.
Peut-être que ça se rapprochera de ce côté-là, mais l'image négative. Et jouissive, ludique, hédoniste, ce qu'on avait de Cuba, on n'en est plus à ce terrain-là.
Voilà. Suivons l'actualité. Et puis, nous en reparlerons peut-être ensemble, parce que vous allez revenir pour votre prochain livre, justement, que vous avez annoncé, donc on parlait consacré à la mafia.
D'autant plus que Cuba était un terrain de jeu de la mafia pendant longtemps.
Ah oui.
Et oui.
Et ah oui, forcément, oui, c'est connu pour, avec tout, oui.
Ils ont perdu énormément avec la révolution castrice. Hein.
Oui.
Ils ont perdu des investissements énormes, gigantesques, des milliards
de
dollars.
Ils n'ont pas assez soutenu Batista pour le maintenir en place.
Ils n'avaient pas cette possibilité-là. Ils avaient la possibilité financière,
oui.
Mais pas militaire. Donc, ils ne s'y attendaient pas, notamment.
À l'effondrement, à la prise de pouvoir par Castro.
Ils ne s'y attendaient pas. Ouais. Donc, mais enfin, toujours est-il qu'ils ont laissé tous les casinos, les hôtels, etc. C'est des investissements à perte. Il n'y a pas eu de retour, là.
Peut-être y espéreront-ils revenir.
Ça va prendre. Ils feront pas valoir leur droit d'utilisation.
Alors, là, je vous propose maintenant d'aborder donc l'histoire de Franklin Delano. d'Éléonore et en parallèle celle des deux enfants les plus marquants donc, de Ted, hein, qui sont la brillante Alice et puis Ted Junior. Hein, Ted Junior qui, donc, lui aussi, un beau, enfin, un destin qui est assez exemplaire. Alors, commençons, si vous voulez bien sûr, par Franklin Delano. Alors, qui est-il, ce Franklin Delano, et quel est son lien de parenté avec, justement, Theodore Roosevelt?
Alors, c'est un cousin éloigné. C'est un cousin éloigné au cinquième degré. Donc, il fait partie de la branche du nord de New York.
Donc c'est Oyster Bay, hein, il y a deux branches,
Hyde Park. Non, c'est pas Oyster Bay, c'est Hyde Park.
C'est Hyde Park, Hyde Park, c'est ça.
Contrairement à la branche d'Oyster Bay dont est issu Théodore. Donc ils sont parents éloignés, mais ils se fréquentent. Hein. Ils se fréquentent de manière très, 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 très régulière. La mère de Franklin est très liée avec la sœur de Théodore. Donc il y a des liens affectifs très très forts et surtout, par voie de conséquence, il y a une sorte d'admiration très précoce que nourrit Franklin pour Théodore. C'est son modèle. Alors, à ceci près que le père de Franklin était démocrate et donc Franklin a hérité de cette inclination vers les démocrates alors que Théodore est républicain. Mais ça n'altère en rien leur relation, l'esprit familial passe avant l'esprit politique, ils sont Roosevelt avant tout. Et donc, il y a une admiration très sincère et très forte de Franklin pour Théodore dans ses jeunes années.
Et il va le suivre d'ailleurs à la trace en quelque sorte.
Il est très fier, effectivement, tous les postes.
Il va occuper un certain nombre de postes que avait été coupé Théodore, dans
notamment
son ascension politique.
Secrétaire adjoint à la Navy, qu'avait occupé Théodore et que va occuper Franklin et qu'occupera après le fils de Théodore, Théodore Junior. Il sera lui aussi secrétaire. C'est une fonction préemptée par les Roosevelt, pratiquement.
Alors, au début, Franklin, en tout cas, au début de sa vie, dans sa jeunesse, il n'a pas une aura particulière. Hein. Les Roosevelt, le clan Roosevelt, commence d'ailleurs à le considérer un peu avec suspicion. Enfin, ils ne sont pas très convaincus par les qualités de Franklin. Qui est-il? Qui est ce jeune homme?
C'est un fils à papa, d'abord. Fils à sa maman, plutôt que le fils à papa. Le père est malheureusement malade, il est souffrant, il s'occupe pas tellement de... Il a pas le temps, il va mourir assez rapidement. Mais la mère, elle, a une personnalité remarquable. Elle va suivre...
Sarah, la fameuse Sarah.
La fameuse Sarah, elle va le suivre jusqu'au pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle va être là. Et elle va financer son fils, d'ailleurs, même quand son fils sera président. Donc, elle sera omniprésente et elle sacrifie tout à son fils, manifestement. Ça se ressent dans l'éducation de Franklin. C'est le fils et sa maman, un peu délicat, un peu efféminé. Hein. C'est ce que c'est.
Oui,
ses camarades.
C'est un sissi, on l'appelle.
Voilà, donc c'est pas très, c'est pas
un
très.
Fils et maman en quelque sorte.
Voilà, c'est pas très, parce qu'il a une démarche un peu sautillante. Bon, ah oui. Cela étant, c'est très trompeur parce qu'il aime les femmes.
Et oui, on va se l'apercevoir dans la suite.
La suite le montrera amplement.
Là, il n'y a aucun doute.
Il n'y a aucun doute. Il va se charger de démentir
là-dessus. Alors, effectivement, vous parlez Sarah, c'est un peu le problème de France. C'est le problème et puis aussi l'avantage de Franklin. C'est une mère, effectivement, qui est très envahissante. On va le voir par la suite, même après son mariage. Une mère qui est exclusive, dominatrice, avec une relation fusionnelle avec son fils. Alors sa mère est très fortunée et je lis juste quelques lignes de ce livre, hein, si vous voulez bien, parce que sa fortune a des origines qui ne seront pas forcément très nobles. Je lis ce que vous écrivez donc sur Sarah, une mère si envahissante. Au fond, le véritable problème de Franklin avait un nom, Sarah. Cette mère exclusive qu'Alice, emportée par son irrespect viscéral, Alice c'est la fille de Théodore, campait en tartare dominatrice. Il y avait toujours de belles formules, hein, assez féroces. Pour n'être sans doute pas un dragon, Sarah Delano n'en restait pas moins un sacré caractère dont l'indépendance d'esprit le disputait, une personnalité aussi possessive qu'indomptable, son enfance comme son adolescence l'y avait préparé. Plus intéressé par l'argent que par la politique, Warren Delano, le père de Sarah, s'était livré à la contrebande d'opium en Chine. Il avait passé de longues années à Canton, où il avait à peu près tout connu, à commencer par la fameuse guerre de l'opium. Sa vie aventureuse l'avait même conduit à croiser plus d'une fois le légendaire Ouka, un des hommes les plus marquants de son temps, qui contrôlait alors d'une main de fer le commerce cantonais. Warren était lui-même devenu riche, puis à demi ruiné par la dépression économique de 1856 avant de se refaire financièrement en quelques années. Peu importait la nature peu orthodoxe de ses activités, la fortune offrant, comme toujours, la plus sûre des absolutions. C'est un peu comme Joe Kennedy, finalement.
Oui, mais enfin, Joe Kennedy, c'était l'illégalité qu'il cachait, alors que au XIXe siècle, le trafic de l'opium...
C'était considéré comme...
Il n'y avait pas d'interdit sur les stupéfiants, hein, jusqu'au début du XXe siècle, pratiquement.
À quel moment il se lance en politique avant son mariage?
Oui.
À quel moment quelles études suit-il et comment se lance-t-il en politique?
Il fait des études de droit, il est aussi peu passionné par le droit que son parent, hein, qui était devenu président. Donc il se lance en politique assez rapidement. Science politique assez rapidement par des postes locaux, hein, dans l'État de New York.
Qui sont des postes électifs, hein.
Des postes électifs, oui, à l'Assemblée de l'État fédéré de New York. Dont la capitale est Albany. Et donc, il commence par avoir ces postes-là. Et il est encouragé par son cousin, d'ailleurs, l'ancien président, puisqu'il a quitté la présidence, Théodore.
Oui, rappelons, en 1909, hein, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Il dit, mais vas-y, affirme-toi... oublie la parenté qu'on peut avoir, parce que il a des scrupules. Franklin lui dit, mais je suis quand même démocrate, je ne suis pas républicain comme vous. Peu importe, ça ne me concerne pas, suis ta trace, suis ton chemin, et tu réussiras. Et donc c'est ce qu'il fait, manifestement. Et quand Théodore meurt en 1919, il est très affecté. Il est vraiment très affecté, d'autant plus qu'il a été le témoin de mariage.
Alors c'est ça, nous en parler. Vous parlez du mariage, il faut parler de son mariage. Quelle année le mariage de Franklin?
Je crois que c'était 1907, quelque chose.
1907, oui.
1907.
Donc il a déjà, quand il se marie, il a déjà quelques responsabilités d'ordre politique.
Et oui, mais mineur,
dans l'état donc de New York. Alors
ce mariage, d'ailleurs, il s'en souvient, tout le monde s'en souvient, parce que c'est Théodore qui tient le premier rôle, comme toujours, hein. Il est envahissant, il est égocentrique.
Il était témoin, hein, c'est ça.
Oui. Et c'est lui qui fait le discours.
Oui. Alors évidemment, si on parle de ce mariage...
Attendez, je veux vous dire même en quelle année c'est, puisqu'il a été élu en 1904, et le mariage a eu lieu quelques jours avant l'investiture de sa seconde présidence. Donc c'est 1905, je crois.
Alors ce mariage, en effet, surprend. Il surprend d'ailleurs sa mère Sarah, qui s'oppose à ce mariage avec la fameuse Éléonore. Qui est cette Éléonore? Parce que d'autant que vous prêtez, dans votre livre, une possible relation entre Franklin et la personne qui lui a présenté Éléonore, qui est Alice, je crois, justement.
Oui. Oui, mais...
ça, c'est... On retrouve que c'est cousinade, n'est-ce pas?
Oui, mais, mais là, Alice le prenait de haut. Hein. Elle le prenait pour le fils à sa maman, d'ailleurs. Hein. Alice,
d'accord.
Elle avait besoin d'hommes mûrs, d'hommes vraiment...
Donc il n'y a pas eu de relation particulière, ce n'est qu'une rumeur.
Non. Ils avaient des moments de complicité, ce qui déplaisait fort à Léonore, d'ailleurs.
Oui.
Mais ça n'a jamais été au-delà. Ce n'est pas son type d'homme, Alice. Elle a connu d'autres calibres. Des syndicalistes...
Alice.
Oui. Notamment un des principaux syndicalistes,
oui, en effet,
John Lewis.
Oui, vous en parlez.
L'un des fondateurs du CIA, du grand syndicat américain. Hein, donc,
oui.
Non, c'était d'autres
personnes. Néanmoins, c'est Alice qui lui présente Éléonore.
C'est Alice qui lui présente Éléonore, en pensant que ça ne marchera jamais d'ailleurs, hein, parce que la pauvre Éléonore est complètement traumatisée, complexée par ses parents. Donc son père est le frère cadet de Théodore, qui est mort en se droguant, etc. Il était s'occupé plus de sa fille. La mère de la pauvre Éléonore était anti-maternelle, comme c'était pas possible. Elle faisait la coquette et elle se préoccupait pas du tout de sa fille. Et sa fille a vite compris que, par rapport à ses parents, qui étaient très beaux l'un et l'autre, elle n'était pas aussi belle qu'eux. Et donc c'était le petit canard boiteux, le vilain canard qui était de son côté. Elle en a conçu des complexes énormes. Quand, par enchantement, le beau Franklin s'approche d'elle, elle est toute éblouie, c'est son prince charmant. Et donc, elle accepte immédiatement de se marier, elle accepte complètement les propositions que Franklin lui fait, sans réfléchir. Et donc, ça part comme ça. Elle déchante.
Pourquoi Franklin l'épouse? Il est vraiment séduit?
Je ne sais pas s'il est séduit, parce qu'il voulait une femme qui ne soit pas aussi dominatrice que sa mère.
Ah oui.
Donc il voulait chercher un peu l'antithèse, si vous voulez. Et Léonore, de ce point de vue, là, l'est. En plus, elle a une qualité que peu de femmes ont, avec pour cause, c'est que c'est une Roosevelt. Donc le lien avec avec Théodore. Donc c'est raffermi. Déjà, peut-être dans une démarche politique, y a-t-il pensé, au moins de manière inconsciente.
Et Léonore, ce lien avec Roosevelt, c'est assez éloigné aussi, non?
Éléonore, non. Éléonore est la nièce de Théodore.
Elle est la nièce de Théodore.
C'est la nièce de Théodore.
Oui, donc c'est un lien très proche.
Très proche.
C'est pour ça qu'Alice, la fille de Théodore,
la présente, en effet. C'est la nièce de Théodore, et donc Franklin
devient... Donc il y a aussi certainement ce calcul de sa part de se rapprocher, certainement, oui.
Et c'est un manœuvrier. Il cachait son jeu, Franklin. Il était beaucoup plus habile qu'on l'imaginait au début. Au début, après, on savait qu'il était un homme en retort. Un vrai politique, quoi. Il n'y avait pas de mal à...
Alors, il épouse Éléonore, qui est donc très séduite. Lui, sans doute, beaucoup moins. Et il va commencer à ce que vous appelez un ménage à trois, c'est-à-dire Éléonore, Franklin et Sarah.
Et
alors, c'est extraordinaire, parce que Sarah leur achète une maison à New York, je crois, c'est ce que vous racontez. Mais elle, sans leur dire... Elle achète la maison mitoyenne.
Voilà.
Alors, évidemment.
Et elle ménage un passage entre les deux.
Oui.
Et donc, c'est un ménage à trois.
Et c'est elle, en effet, qui tient tout.
Et donc,
tout,
elle en souffre énormément. Éléonore en souffre énormément. Ça, c'est
les cordons de la bourse. Alors, oui.
Ce qui fait sauter la configuration de ce genre, c'est la découverte pendant la première guerre, de lettres confidentielles que Franklin avait avec sa maîtresse.
Rapidement, Franklin va avoir des maîtresses.
Il va avoir des maîtresses, dont une qui va la garder jusqu'au bout, puisqu'elle sera là sur son lit de mort, hein, en 1945, hein, cette même maîtresse-là.
C'est laquelle Parce qu'il y a eu Lucie, il y a eu
Lucie Page,
Lucie. Qui a été son assistante, et qui était une assistante modèle.
Voilà, et c'est ça. Et donc, elle est tellement modèle que Éléonore a exigé qu'elle s'en aille. Effectivement, elle est partie, elle s'est engagée dans l'armée, mais elle est revenue au service de Franklin pour des raisons professionnelles. Donc, non, il en était vraiment épris, manifestement, et c'est la découverte de cette infidélité qui a complètement changé l'optique d'Éléonore. C'est devenu une femme d'abord beaucoup plus dure qu'avant, et puis elle s'est dit, il m'a rendu ma liberté, et je peux faire ce que je veux maintenant. Puisqu'il n'y a plus de mariage, bon, on va garder ça pour l'apparence, mais en réalité, je ferai ce que je voudrais, etc.
Ça, ils font, ils chantent pas, ils vivent un peu chacun de leur côté.
Des hommes, des femmes, elle aura des femmes dans sa vie. Hein,
on vous en parlait beaucoup, on l'évoquait partie.
Et des femmes connues, bien souvent. Mais elle est libre, c'est une femme libre avant la lettre. Hein. Elle est annonciatrice de bien des choses qui vont se passer en Amérique des décennies plus tard. Donc c'est un précurseur. Voilà pourquoi aussi elle est très, très ancrée dans la réalité américaine.
Mais ça étonne parce que justement la découverte de la liaison de son mari, une liaison qui aurait débuté en 1916, quelques années donc après leur mariage, c'est ça qui provoque en quelque sorte et son changement de style de vie bien sûr, mais aussi son presque un changement de personnalité parce que elle était on l'imagine pas la suite de sa vie si on la compare à ce qu'elle était avant justement.
Ah non, elle se désinhibe complètement.
Oui.
Elle s'engage d'ailleurs politiquement sur un terrain social, hein, très très à gauche, beaucoup plus à gauche que Franklin. Lui, il laisse faire parce qu'il se sent coupable quand même dans cette histoire. Donc il la laisse faire à son idée. Et après, bon, Franklin aura son drame personnel avec sa paralysie.
Oui, nous allons effectivement...
Sa paralysie.
Nous allons, évoquer cela.
Et non seulement ça ne les rapproche pas, mais ça les éloigne encore plus. Elle fait le minimum requis, mais il n'est pas question que cette maladie ressoude quoi que ce soit. Ses yeux, elle.
On va parler effectivement de cette maladie qui est très importante dans le destin de Franklin. Néanmoins, il souhaite divorcer. Hein. Lorsqu'Éléonore découvre leur liaison, lui menace en effet de divorcer. Et c'est sa mère, Sarah, qui lui dit, si tu divorces, je te déshérite.
Alors,
qu'est-ce qui la motive Pourquoi ? C'est les convenances, c'est la carrière politique. Est-ce qu'il motive Sarah justement à dire à son fils non, pas de question, tu ne divorces pas. Et finalement, il ne divorce pas.
Elle était très ancrée aussi dans la religion et ça se faisait pas à l'époque. Hein.
C'est un souci. Ouais.
Ah oui, il y a ça, la morale quand même. Chez les Roosevelt, il n'y a jamais eu de scandale, que ce soit dans la branche ou l'autre, hein. Pas comme les Kennedy d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas question qu'il y ait de faribole de ce genre. Hein. Donc, elle lui fait comprendre très rapidement, et il comprend d'autant mieux que, comme vous le disiez, c'est elle qui a les cordons de la bourse.
À ce moment-là, on est dans les années 16-20, en gros, hein, quand il y a ce gros changement. Quelles sont les responsabilités politiques de Franklin?
Alors, il s'est présenté à la vice-présidence des États-Unis quand Wilson a démissionné, enfin a fini son mandat. Donc, il y a eu un nouveau candidat qui s'est présenté.
Donc, on est en 1919.
On est en 1919.
C'est ça.
Et donc, il est sur le poste de vice-présidence. Et ils sont battus, évidemment, ce sont les républicains qui gagnent. Donc, il perd l'élection et il veut se recaser provisoirement dans la banque, la grande banque, etc. Et puis, ça ne dure pas longtemps parce qu'il s'aperçoit que vraiment, ce n'est pas fait pour lui. Et puis après, survient ce drame en 1921 où il est paralysé.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros problème, cette attaque, c'est une attaque de...
Ah, c'est la polio. Hein.
De polio militaire.
Ce qu'on dit, c'est la polio, mais d'autres émettent d'autres hypothèses. J'ai un ami qui est d'ailleurs à la Salpêtrière, il me dit, non, mais c'est peut-être pas ça, parce qu'il y a peut-être d'autres symptômes qui ont souvent été greffés. Bon,
par exemple
des symptômes que les médecins connaissent, mais que moi, je serais bien incapable de vous dire. Toujours est-il que, à l'époque... C'est une maladie extrêmement grave, extrêmement mortelle, d'ailleurs, pour ceux qui ont un certain âge, et lui, à 39 ans, à cette époque.
Hein. Oui.
Donc, il est très jeune, mais pas, il n'est plus à l'état infantile. Donc, ça peut être mortel dans son cas. Donc, et puis, ils ne savent pas ce que c'est, au départ. Les médecins lui disent, non, mais c'est l'histoire de quelques jours, ça va revenir. Puis, ça ne revient pas. Et puis, c'est de pire en pire. Et puis, il finit par en prendre son parti et comprendre qu'il restera comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Donc, porte une armature qui soutienne ses jambes. C'est un supplice quoi, permanent.
Mais il peut quand même se déplacer.
Avec des béquilles. Et d'ailleurs, il y a très peu de photos qui le montrent avec des béquilles. Hein,
c'est ça que je voulais aussi évoquer avec vous, parce que vous écrivez dans ce chapitre le coup du destin et le remède de la politique. Hein, c'est la politique qui va... En quelque sorte, permettre de surmonter cette épreuve. Vous écrivez que le problème n'était pas la réalité de son état physique, mais l'image qu'il donnait de lui. Les électeurs ne souhaitaient pas, au fond d'eux-mêmes, voter pour un homme diminué. Comment fait-il, justement, ne pas montrer ces graves problèmes de santé ?
Il s'assure la complicité.
Et il va y arriver jusqu'au bout, d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie.
Ouais. Kennedy aussi. Quand il se marie avec Jackie, dans ses mémoires, dit qu'il était plus souvent avec ses béquilles que sans. Mais jamais on le voit qu'une fois, qu'une seule photo avec ses béquilles, alors qu'il s'en servait constamment.
Et constamment, il était
constamment. Donc il y avait la presse qui s'auto-censurait là-dessus. Et
il y avait une auto-censure, la presse était au courant.
Oui, et puis ils aimaient bien Kennedy, déjà. Donc,
oui, mais pour Roosevelt,
Parce
que c'est encore plus visible.
Oui, c'est plus visible. Et là, alors si vous voulez, il y a des photos qui le montrent. Et il est toujours accoudé à la portière d'une voiture, donc ça, il tient debout. Ou alors, quand il marche sur scène, il est soutenu par son fils, qu'il tient au bras. Donc, c'est secret polichinelle, encore une fois. Tout le monde sait qu'il est malade, qu'il est grave matin, mais les photos ne le montrent pas. Et c'est ça l'important. Il a compris le sens de la publicité de l'image, hein. comme Théodore, d'ailleurs, en son temps. Donc, ils sont précurseurs là-dessus, sur ce plan-là. Il se fait élire.
Nous avons pu évoquer finalement sa personnalité. J'imagine que effectivement celle-ci va évoluer sous l'épreuve, hein, l'épreuve de la maladie, naturellement.
Ah, oui.
Que diriez-vous de sa personnalité, de ses capacités intellectuelles?
Non, c'est un homme très capable à l'évidence. Hein. Très capable. Il a une personnalité très forte qui au début n'était pas évidente, si vous voulez, mais sous le poids de l'épreuve, il se révèle comme un homme d'une très très forte personnalité et d'un très grand courage physique et intellectuel. Ça, c'est clair. Et donc, on peut imaginer dès cette époque-là qu'il a l'étoffe d'un président. S'il est capable de surmonter des épreuves de ce genre, il y a peu de choses qui peuvent l'impressionner. Donc c'est là où ça va fortifier paradoxalement ses atouts politiques.
Mais cette dure épreuve, en tout cas, ne l'a pas mis en réserve, parce qu'il aurait pu être tenté, finalement, de se mettre en réserve, parce qu'il n'a plus les moyens physiques, etc. Non,
c'est une petite mort. C'est une petite mort. S'il avait fait ça, il n'en aurait plus pour longtemps. Il a été fait déjà pour la politique, il avait la fibre de la politique.
Il avait vraiment le goût de...
Et il a trouvé le moyen de concilier, de cacher un peu, de manœuvrer, sans pour autant perdre ça.
Alors vous dites d'ailleurs qu'il rachète le complexe hôtelier de Meriwether, c'est là où il était soigné.
Oui, parce que les bains d'eau chaude, bouillonnants, imaginait-il, améliorer son état, mais ça n'a rien à
voir. Il était souvent en soins ?
Il était souvent en soins, constamment.
C'est ça qui était incroyable, parce qu'il va être en poste de président jusqu'en 1945, et tout ça, finalement, était assez peu évoqué. Il y a vraiment une autocensure de tradition aux États-Unis sur l'état de santé de leur président.
En tout cas, sur les démocrates, c'est sûr qu'il y a une autocensure.
Chez les républicains.
S'il arrivait ça à Trump, je ne sais pas si les journalistes cacheraient. Hein. Ça, c'est... Comme Nixon, d'ailleurs, ils n'auraient jamais caché sur Nixon. D'ailleurs, quand il était malade à un moment donné, ils ont fait des articles alarmistes, il n'y avait pas de quoi.
Oui.
Alors qu'ils n'avaient rien dit sur Kennedy.
Vous voudriez-vous insinuer que la presse américaine est plutôt démocrate que républicaine ?
D'une part, d'une partialité telle qu'elle n'a pas de leçons à donner à la presse européenne.
Ça n'a pas changé. Hein.
Française en particulier, ça c'est certain.
Non, puisque maintenant, elle est proche d'accuser Trump de sénilité aussi. Hein.
Oui, oui. Alors que sur Biden, elle n'a rien dit.
Ah non, pas toi, oui.
Biden, c'est pas un problème.
On est un peu dans le...
Non, la presse a toujours été partiale aux États-Unis. Ils ne s'en sont pas cachés. Hein. Par exemple, Theodore White, le journaliste qui est devenu historien, a trouvé normal de faire campagne pour Kennedy. Il était journaliste au New York Times. Hein. Mm-hmm. Il avait le badge Kennedy président, etc. Mm-hmm. Il trouvait ça tout à fait normal.
Oui.
Parce qu'il était plus sympathique que Nixon. Comment marchait la presse américaine à l'époque. C'est vrai. Oui. Hein. C'est à de rares exceptions près, évidemment.
Alors revenons au parcours politique, hein, si vous voulez bien, de Franklin Delano. Il se porte candidat à gouverneur de l'État de New York. C'est un poste important,
de l'État de New York. Oui. Généralement, les gens qui ont de l'ambition au plus haut niveau, ils sont sénateurs ou représentants. Après, ils font un stage de gouverneur et ils se présentent à l'élection.
Et donc, avant l'élection présidentielle.
Théodore était gouverneur de l'État de New York aussi. Et le parcours est complètement identique.
Hein, c'est incroyable.
Ça, il colle complètement à la réalité.
Oui, c'est assez impressionnant.
Le seul poste qu'il n'aura pas occupé, c'est vice-président, que Théodore a occupé par hasard, puisque c'est l'assassinat de McKinley qui l'a propulsé.
Oui, qui a fait,
Il est arrivé normalement par l'élection.
Ouais. Alors, il l'emporte de très peu, quand même, précisez-vous.
Oui, l'écart est moins grand que ce qu'on a fait croire après. Hein. On a fait toute une mythologie là-dessus. Il n'était pas si important que ça, mais c'était un changement, manifestement. Mm. Alors après une décennie républicaine, complètement républicaine, il y a eu trois présidents successifs, hein, Harding, Coolidge et Hoover. Donc, il est élu. Et il y a un vent de nouveauté qui apparaît à ce moment-là.
Ce vent de nouveauté, c'est quoi ?
D'abord, c'est un démocrate. Et c'est plus un républicain. Et puis ensuite, il a des conceptions qui sont quand même hétérodoxes par rapport à la vulgate orthodoxe du capitalisme américain. Il instille quelques doses de social à l'intérieur, pas parce qu'il est socialiste comme les républicains vont l'accuser, mais parce que c'est un moyen de sauver le capitalisme. Et si on reste sur les brisés orthodoxes, ultra-libérales, ça va s'effondrer. Donc il faut lâcher du laisse. Et puis, quand on a 12 millions de chômeurs dans les rues, il est évident qu'il faut faire quelque chose. Hein. On ne va pas se fier au marché pour rétablir les choses.
À ce moment, vous écrivez d'ailleurs, hein, c'est un moment de sa vie, qu'Éléonore, donc sa femme, maintenant l'épouse du gouverneur de New York, elle change d'opinion sur la carrière de son mari parce que Franklin, en s'élevant le plus haut possible, favoriserait ses projets. Ah, elle, c'est quoi ses projets, Éléonore ? Parce qu'elle va se révéler assez féroce même. Hein,
faire du social, faire des actions sur des villages, dans des endroits complètement déshérités, pour essayer de démontrer par la réalité qu'on peut élever ces gens-là, qui ne sont pas condamnés Ad vitam aeternam. Non, elle essaye, elle a une sorte de volontarisme, si vous voulez, qui est tout à fait honorable de son côté, c'est clair. Bon, ça se termine en gabegie de défendre l'État, bien évidemment, mais au moins elle aura essayé. Je veux dire, c'est pas forcément condamnable a priori.
Alors, elle va s'opposer à Ted Junior d'une manière.
Oui.
Donc Ted, le fils de Théodore,
oui,
pour le coup. Elle va s'occuper, lui, de manière très féroce, de manière très, très pignasse, en le dénigrant d'ailleurs dans sa campagne, pardon, et Ted Junior, le fils de Théodore, ne le pardonnera d'ailleurs jamais à
oui.
De quoi s'agit-il?
Parce que Théodore n'a pas accepté ce qu'avait accepté son père. C'est que Franklin soit démocrate et s'engage du côté démocrate, etc. Il a voulu une il a conçu une rancune très tenace à l'égard de Franklin.
De Franklin,
et
oui.
Donc Eleanor est venue au secours un peu de son mari en disant bon, de quoi il se mêle et puis il est qui celui-là.
C'est dans cette campagne de gouverneur de
oui,
New York, c'est à ce moment-là.
C'est parti de là. Et donc ça va tenir effectivement très 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 longtemps. Il faudra du temps avant qu'il y ait une réconciliation entre notamment Alice. Et Eleanor, qui ne se parlaient plus pendant des décennies. Hein. Donc elles se sont reparlées dans les années 50 et elles ont fait
table rase. Oui, ça durait longtemps. Hein.
Ouais, table rase du bazar. Ben, l'une comme l'autre était.
Ça arrête la carrière politique du fils de Théodore, donc Théodore Junior, cet échec, ça l'arrête tout.
Ah oui, ça l'a handicapé. Parce que lui misait sur cette élection pour se présenter à la présidence lui-même. Et donc là,
Alors je vous propose, parce que nous en arrivés aux élections présidentielles, hein, après la crise de 29, les élections de 1932, effectivement, qui vont voir Franklin accéder à la présidence. Donc nous allons évoquer ça dans la deuxième partie de notre émission, après un message de la radio que nous allons écouter, et puis une pause musicale. Nous avons choisi un Américain à Paris de George Gershwin, c'est joué par le Philharmonique de New York. Est dirigé par Leonard Bernstein.
C'est pas rien.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette première partie d'émission Georges Hayage, qui est historien, à l'occasion de la publication aux éditions Perrin de ce livre passionnant « Les Roosevelt, une dynastie américaine ». Lors d'une première émission, nous avons évoqué Théodore et maintenant nous évoquons bien sûr Franklin Delano Roosevelt. La question c'est Delano, que vient faire ce Delano entre Franklin et Roosevelt, et Georges Hayage?
Delano, c'est le nom de famille de sa mère, de Sarah. Sarah Delano. L'origine flamande, du nord de la France en tout cas, et ils s'appelaient les Delanois. Et, quand ils ont émigré aux États-Unis, Delano est devenu Delano.
Donc ils ont encore de la famille, sans doute, des cousins lointains.
Probablement.
Dans le nord de...
Probablement. De même qu'il y en a dans les provinces du Nord, enfin aux Pays-Bas maintenant.
Oui.
De même, c'est un pedigree très chaotique. Et...
Mmh. Alors Georges, je vous propose qu'on reprenne l'histoire donc de Franklin. Là où nous l'avions laissé, il est gouverneur de l'État de New York. Nous avons évoqué effectivement sa vie maritale, qui n'en est plus une d'ailleurs, mais uniquement par respect des convenances. Il est donc gouverneur de l'État de New York, qui lui permet de se présenter aux élections. Il se présentera donc comme président aux élections de novembre 1932. Mais avant, il faut évoquer l'événement mondial, hein, octobre 1929, le fameux jeudi noir, parce que sans ce jeudi noir, sans doute n'aurait-il pas été élu président. Donc que se passe-t-il en octobre 1929? Et puis nous évoquons après donc son élection. Et son programme, bien sûr.
Ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise économique extrêmement sévère. Je sais que les Américains en ont subi un certain nombre au XIXe siècle, 1873 notamment. Mais là, c'est un krach boursier qui est à l'origine de cette explosion véritable, qui a des répercussions jusque dans la vie économique, puisque ça met en valeur, en lumière, la fragilité, la vulnérabilité totale du système bancaire. Et donc, l'économie... Et s'effondre à partir de là.
C'est le système bancaire qui implose suite au crack. L'effondrement du cours des actions est provoqué par quoi?
L'effondrement du cours des actions est provoqué par un mouvement spéculatif qui a duré depuis des années et qui surgonflait les actions.
Puis à un moment,
il n'y a plus de rapport avec la réalité. À un moment donné, ça explose et donc ça entraîne dans toutes les actions du système dans la faillite et par voie de conséquence, le système bancaire lui-même.
Oui, parce que les personnes qui ont emprunté de l'argent sont incapables de payer ces emprunts.
Parce que les actions, on les achète.
C'est un château de cartes.
C'est un crédit, à l'époque. C'est 30% de l'action au total. Après, c'est du crédit. Donc, évidemment, ça encourageait le...
Alors, c'est une crise absolument dévastatrice, parce que, juste pour être un chiffre, pour montrer la gravité de cette crise, quand de nos jours on parle de récession, c'est qu'il y a deux trimestres de suite, je crois, de croissance négative. Mais quand on parle de croissance négative, c'est moins 0,5, moins 1, moins 2. Là, c'est moins 50%.
C'est un effondrement
intérieur brut. C'était
subi, qui n'était pas prévisible directement, et qui en plus se déroule dans un contexte qui est quand même tendu, parce que la crise de 1873, il n'y avait pas le communisme à l'époque. Avec la révolution russe, c'est arrivé au milieu. Et donc, c'est une solution alternative, évidente, au moins sur le papier. Et donc, ça met d'autant plus de pression sur ce système capitaliste dont certains prédisent déjà la chute.
Et vous dites que le président Hoover, à l'époque, ne prend pas la mesure du drame, il réagit trop tard. Non.
C'est un homme extrêmement compétent, pourtant. C'était le génie, le Mozart de la finance, comme on dirait de nos jours.
Ce n'est pas très encourageant ce que vous nous dites.
Les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire, il était incapable de comprendre les moyens de relever le pays, hormis les recettes traditionnelles du capitalisme libéral. Donc il fallait d'autres recettes, et c'est là où Roosevelt apporte un plus, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il essaye d'inventer des solutions, et surtout, d'apporter une dimension humaine. Et c'est ce qui manquait à Hoover, la dimension humaine de l'électorat. Et là, les gens ont été très sensibles.
Alors, il est élu donc triomphalement, en 57% des voix, en novembre 1932. Quel est son programme? Est-ce qu'il a un programme précieux, au contraire?
Oui, il a un programme.
programme. Quel est son programme?
Il a un programme, c'est ce qu'on appellera le New Deal, c'est-à-dire de faire en sorte que l'État, qui jusqu'à présent ne s'occupait pas du tout de questions économiques, il s'occupait que du régalien, commence à s'impliquer sur un plan économique et donc à injecter des fonds dans tel ou tel secteur, à sauver les entreprises et à intervenir directement. Et donc il y a tout un système qui se met en route avec des grandes institutions qui sont créées, tant sur l'agriculture que sur l'industrie, pour limiter la casse, en quelque sorte. Hein. Et donc, les résultats n'ont pas été fameux, cela dit. Finalement, qu'est-ce qui va mettre fin à la crise économique? C'est la guerre. Donc, il faudra attendre 8 ans à peu près, où ça va vivoter. Mais enfin, on a un président aux commandes qui s'occupe. D'ailleurs, toutes les semaines, tous les 15 jours, il intervient à la radio. Ces fameuses discussions au coin du feu, où il explique aux Américains qu'est-ce qu'il veut faire, et avec un langage très simple et pas du tout technocratique comme Hoover l'avait. Donc tout ça montre un changement dans le rapport entre l'exécutif, entre le pouvoir et le peuple, si vous voulez. Et les Américains lui savent gré, manifestement. Même s'il ne réussit pas tout, il lui savent gré quand même d'avoir ce côté de proximité.
C'est cette présence qui restaure une forme de confiance, mais ça paraît quand même assez superficiel. Certains disent maintenant que finalement les mesures de Roosevelt et ce fameux New Deal n'ont pas eu grand effet, non. Et l'économie se serait redressée quasiment d'elle-même progressivement.
Oui, avec 12 millions de chômeurs, il n'y a pas le temps devant soi.
Combien de chômeurs y avait-il?
12 millions.
Oh,
12 millions, avec les soupes populaires, c'est... avec les...
Et puis il n'y avait pas l'aide sociale comme nous la connaissons.
Effectivement, des familles jetées à la rue du jour au lendemain, c'est complètement dramatique. Et encore une fois, jamais aux États-Unis, le pays de la confiance en l'avenir, hein, jamais c'est arrivé. Et donc c'est un séisme pour eux, hein, pour la population américaine. On imagine mal maintenant, de nos jours, le séisme que ça a pu avoir à l'époque où ça s'est produit.
Et puis c'est la marche à la guerre, avant d'arriver à cette marche à la guerre et les mesures que lui prend, parce que vous expliquez très bien que l'isolationnisme est dans les gènes du pays, hein, des Américains, et dans la tradition des pères fondateurs de George Washington, avec son célèbre discours d'adieu, et jusqu'à James Monroe et sa fameuse doctrine. Lui n'est pas isolationniste.
Alors, il n'est pas isolationniste. Il n'est pas isolationniste. Wilson ne l'était pas. Il est entré en guerre, tardivement, mais il est entré en guerre quand même. Donc lui ne l'était pas, mais il sait que la majorité de la population américaine l'est. Et donc il est sur des œufs en essayant d'amener le pays progressivement à y aller sans trop le montrer. Et finalement, Pearl Harbor, là, ça va être l'électrochoc qui va lui permettre effectivement d'entrer en guerre. Alors que jusque-là, c'était très, 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 très mal vu. Hein.
C'est Pearl Harbor qui le fait entrer en guerre ou ce sont.
C'est pour ça qu'on a accusé Roosevelt d'avoir pratiquement pas créé Pearl Harbor, mais d'avoir laissé faire. Sachant que c'était un prétexte.
Il savait que les Japonais préparaient un coup de force?
Pas de cette façon-là et pas à ce moment-là, mais il savait que les Japonais...
C'était inévitable. Sentant cela arriver, il prend quand même un certain nombre de mesures pour justement muscler la défense américaine. Que fait-il?
Il transforme le pays en économie de guerre.
Avant la déclaration de la guerre.
Il avait quelques prémices avant, mais depuis décembre 1941... l'économie de guerre se met en place. Et la machine américaine tourne alors, dès lors, à plein régime. Et là, on ne parle plus de crise, parce que la crise est surmontée, de fait. Donc ça a eu cet effet-là, si vous voulez. Et puis, à partir de là, l'Amérique prend une autre dimension. Hein, sur le plan. Jusque-là, c'est une puissance qui était un peu repliée sur son espace continental. Là, maintenant, elle commence à apparaître au-delà des mers, contre le Japon, contre l'Allemagne et l'Italie. Et donc tout ça lui donne une dimension qui sera consacrée à la fin de la guerre en 1945 avec le nouveau rôle qu'auront les États-Unis sur le plan international.
J'avais une autre question à vous poser justement sur cette crise qui fait que la production américaine est divisée par deux. Hein, produit intérieur brut américain est divisé par deux entre 1920 et 1932-33. Quand l'Amérique retrouve-t-elle son niveau de production?
Pendant la guerre.
C'est pendant la guerre, c'est ça.
Au sortir de la guerre, l'Amérique représente 51% de la production mondiale. 51%. Donc, ils se sont refaits et au-delà de ce qu'avait se passé.
Alors, le clan Roosevelt est divisé hein, entre lui aussi les isolationnistes et les interventionnistes.
Oui.
Vous parlez d'Alice notamment.
Alice, c'est une
Alice qui est proche de Lindbergh, qui lui-même est proche du parti nazi. Ouais. C'est une réalité, ça?
Ah oui.
Lindbergh proche du parti nazi,
c'est pas... Il était antisémite. Complètement.
Oui.
Lindbergh était un antisémite notoire.
Ah oui.
C'est même effrayant de voir les discours qu'il a pu tenir. C'est un héros. Ben, c'est toujours un héros, d'ailleurs, hein, puisque le parti nationaliste en Amérique a continué de le soutenir, mais c'était pas glorieux. Mmh. Et Alice l'a soutenu, effectivement. L'a soutenue, non pas parce qu'elle était raciste ou contre la guerre, mais parce que ça contrecarrait son cousin.
Mmh.
Donc tout ce qui pouvait aller contre son cousin le faisait, y compris sur la guerre.
C'est
une sorte de famille.
Une personnalité assez particulière.
Ah non, mais elle, c'était un phénomène. On l'appelait, quand elle était jeune, et qu'elle faisait la coquette, 16 ans, 17 ans, on l'appelait Princesse Alice. Parce qu'elle prenait des poses, elle se faisait photographier. Bon. Et puis, elle se marie avec un homme qui est très branché en politique, qui va devenir speaker de la Chambre des représentants, c'est pas rien. Elle a un amant qui, lui, est le président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, ce qui fait que c'est la femme la mieux informée du pays, d'un côté comme de l'autre, avec un père ancien président en plus. Donc, c'est une femme qui va changer de dimension et qui va devenir extrêmement sérieuse. Sur un plan politique, elle connaît tout sur tout le monde, elle a des analyses précises, et à la fin de sa carrière, après la Seconde Guerre mondiale, on va la surnommer l'autre monument de Washington.
Mmh. Néanmoins, elle ne se lance pas en politique. On lui propose pourtant, soit un ticket de vice-présidente. Après la guerre.
Elle était grande gueule, mais elle avouera qu'elle était d'une timidité maladive. Mais
c'est surprenant, ça.
Oui, elle ne savait pas s'adresser aux foules.
Oui, comme les timides, souvent.
Elle était brillante. Dans les discussions de salon, dans les mots d'esprit, dans la culture. Elle était une culture phénoménale, comme son père, d'ailleurs. Tous les deux, ils avaient des livres de tous les côtés. Ils rachetaient les livres parce qu'ils ne trouvaient pas les anciens. Enfin, c'est ce genre-là. Et donc, elle a fait sa carrière, sa seconde carrière, sur sa connaissance politique. Même les Kennedy vont la consulter. Tout le monde l'a consultée. Elle sera amie avec les Kennedy et avec Nixon en même temps.
Elle rejettera Nixon à cause de Watergate. Hein.
Voilà.
Qu'est-ce qu'elle reprochera à Nixon pour le Watergate?
Elle va reprocher à Nixon son discours de départ dans lequel il va se comparer à Theodore Roosevelt.
Theodore
Roosevelt avait dit...
Ouais, ça va surtout pas faire ça.
C'était au moment où Theodore avait perdu sa femme. Il était au 36e dessous. Et il disait, on peut surmonter quand même ça. Et Nixon se retrouve au 36e dessous, mais pour d'autres raisons.
Oui.
Et donc, ce parallèle, ça l'a complètement gêné. Elle était très liée à Nixon. Parce qu'elle voyait l'homme d'État qu'il y avait en lui. Hein. C'est clair. Et avec les Kennedy, ça l'amusait parce que ça lui rappelait sa jeunesse. L'insouciance, l'aristocratie un peu. Et notamment avec Bobby Kennedy, elle aura des échanges très, très, très.
Mais Alice, donc, rappelons aux éditeurs de Radio Courtoisie qu'Alice est la fille flamboyante hein, de Théodore et qu'effectivement, son père, c'est pour elle. C'est Dieu, en fait.
C'est Dieu.
On ne touche pas. C'est en ça que effectivement les Theodore Roosevelt et ses descendants sont très différents des Franklin Delano et leurs descendants, notamment avec ces deux personnalités. Ted, donc vous avez expliqué qu'il avait arrêté la vie politique suite à cet échec où il s'est affronté d'ailleurs aux calomnies et aux médisances de Eleanor.
Il était ambassadeur et son cousin l'a quand même évacué, hein, il n'a pas fait de cadeau.
Mais justement, Alice aura-t-elle une réelle influence quand même sur la politique ou ça reste quand même très superficiel et mondain?
Superficiel.
Parce qu'elle va vivre âgée.
Elle a 96 ans.
Oui.
96 ans. Mais tout le monde la connaissait, elle était invitée de tous les côtés, elle était flamboyante.
Elle avait raté l'éducation de sa fille et du coup elle va s'impliquer dans l'éducation de sa petite fille.
Voilà, elle va s'impliquer dans l'éducation de sa petite fille qui va être.
Alors, puisque nous sommes dans la période de la guerre, quand même, je vous propose, avant que nous revenions bien sûr à Franklin, c'est de nous parler de l'autre fils de Théodore, qui est Ted.
Oui.
Ted Junior, qui lui navigue entre les promesses ratées d'une vie politique et une vie militaire brillante.
Alors, il n'avait pas la vigueur de son père sur le plan politique, c'est sûr. Ce n'était pas du tout
Mais ce n'était pas son affaire, il n'était peut-être pas doué pour ça.
En revanche, le père, s'est mis en valeur sur des questions militaires alors qu'il n'était pas un militaire exceptionnel, alors que Ted était un vrai militaire. Donc sur ce plan-là, il était super.
Je vous propose de nous parler de cette période militaire de la vie de Ted Junior, du
fils
de
Théodore,
parce que c'est assez brillant quand même.
Dès que la guerre est déclenchée en 1941, donc, Ted va voir son cousin, voir Franklin, à la présidence, et lui demande de lui redonner un poste de commandement, etc. Franklin accepte évidemment.
Il a quel âge? Une cinquantaine d'années.
Il est quand même très âgé.
Il n'est pas tout jeune.
C'est un vétéran. Ah non, c'est le plus âgé des engagés.
Des Roosevelt, hein. Ouais. Et des soucis de santé en plus.
Avec des soucis de santé, il est asthmatique. Mm. Il souffre beaucoup d'arthrose. Il marche avec une canne. Donc il est obligé de le cacher. Il y a ses supérieurs qui ne veulent pas le mettre en première ligne. Parce qu'on ne met pas en première ligne un fils de président pour le faire tuer le premier jour. C'est ce que dit son supérieur. Mais attendez, on ne va pas vous faire tuer le premier jour quand même du débarquement en Normandie. Et donc, il participe au débarquement en Normandie parce qu'il ne veut pas laisser ses hommes sans commandement.
Ah, c'est incroyable. Hein,
il avait une vision, une conception de l'honneur et du commandement.
C'est impressionnant.
Et en plus, il est débarqué à Utah Beach. Et malheureusement, il se trompe. Ceux qui le débarquent se trompent d'endroit. On débarque à 2 km de l'endroit prévu.
À Houma, c'est un massacre.
C'est une tuerie. Mm. Et donc, il arrive à ramener ses hommes sur le bon chemin. Et donc, ils arrivent à, comme ça. Et lui, il meurt 3 semaines après d'une attaque cérébrale, au moment même où il était promu.
Il est nommé général de division. C'est quand même un destin. Il faut dire que son fils aussi débarque à Houma.
Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il est enterré en Normandie, donc, parmi des milliers de GI qui sont morts.
Il est au cimetière de Houma,
Oui. Et alors, ce qui se passe, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, Theodore Roosevelt a eu la douleur de perdre son fils, le moins âgé, le cadet, Quentin. Et il est mort, lui, en combat aérien au-dessus de la Champagne. Mm. Et donc, il avait été enterré en Champagne. Et si bien que quelques années plus tard, après la mort de Ted, on rapatrie les cendres de Quentin pour réunir les deux frères, un qui est mort pendant la Première Guerre mondiale et l'autre pendant la Seconde. L'histoire de la famille, le plus âgé et le plus jeune, qui sont morts à leur manière. Mmh. Manière héroïque de toute façon, ça c'est sûr.
Mmh. Il s'agit là d'un...
Il était très fier de ses enfants d'ailleurs, Théodore. Il y avait eu des reportages même de la presse française, au moment où l'Amérique est entrée en guerre.
Oui.
Au moment où ses 5 enfants... il était très fier. Mmh. Mais ce qui va le tuer à lui, Théodore, c'est la mort de Quentin. Qui était très doué, qui était plein de vie, plein de... Et là, il meurt quelques semaines plus tard. Il ne veut plus vivre.
Alors je vous propose, après avoir évoqué effectivement Alice et Ted Junior, donc le fils de Théodore, d'en revenir en effet à Franklin, et puis aussi à sa femme. Donc que voudriez-vous dire sur la période de la guerre telle que... Franklin la traverse comme président
elle joue le jeu.
Mais en parlons d'abord de Franklin. Si vous voulez, jusqu'à savoir, et après on va parler d'Eleanor.
Franklin est un chef de guerre irréprochable, il fait la guerre, il s'occupe de sa préférence qui est la Navy. Comme Théodore, la Navy, il la chouchoute, il commande des bâtiments supplémentaires, etc. Donc il fait ce qu'il faut. Et donc, après, bon, il meurt dans les conditions qu'on sait, il meurt d'épuisement.
On est un peu surpris par sa mort, parce qu'il n'est pas très âgé.
Non, mais il est tellement malade. Sa maladie a eu des conséquences, ça l'affaiblit complètement.
C'est la maladie, c'est sa poliomyélite qui l'amène...
Aussi, et puis il était malade du cœur.
Il avait
une fragilité qui fait que là, il était au bout du rouleau, il avait beaucoup travaillé, et là, il est mort d'épuisement aussi.
Il meurt effectivement en mars 1945, je crois.
Et Éléonore,
12 avril 1945.
Et Éléonore, elle, ne cesse pas ses activités, puisqu'elle s'engage toujours en politique. Elle essaie de donner des conseils au successeur de Franklin, qui est Truman. Elle lui dit, écoutez, si vous voulez, j'ai besoin de moi, il n'y a pas de problème. Et Truman la nomme aux Nations Unies. Elle est ambassadrice aux Nations Unies, et elle défend la cause de l'Amérique contre les communistes, alors qu'elle était plutôt à gauche à présent.
Mmh.
Mais elle joue le jeu encore une fois, elle est très ferme, et elle devient une vedette, une star de la diplomatie. Donc, pour cette femme qui était inhibée quand elle était jeune, quel destin.
C'est un destin, en effet.
Quel destin. Quel destin. Et donc, mais elle aura une fin malheureuse, parce que ses enfants font n'importe quoi, et elle est obligée de travailler pour payer les dettes de ses enfants.
Donc, c'est même de la publicité.
Oui, oui, oui.
C'est comme quel produit fait-elle de la publicité?
Pour les soupes, des soupes, ou je ne sais pas quoi, des produits alimentaires.
Alors qu'elle avait une fortune considérable.
Oui, mais ça a été dilapidé par les enfants qui l'ont ruiné. Ils l'ont ruiné.
Mmh.
Ce qui n'est pas le cas chez la succession de
chez Théodore, hein, chez les enfants de...
C'est elle qui a hérité malheureusement de tous les inconvénients qui se sont petit à petit cristallisés.
Mmh. Il nous faut aussi évoquer le dossier de Hoover, qui était le chef du FBI. Vous évoquez ça parce que, effectivement, elle a eu des relations féminines étonnantes.
Oui.
Et Hoover, écrivez-vous dans votre livre, a entrepris, c'est durant la guerre, je crois, de constituer un dossier très documenté sur Léonore.
Oui,
comme une assurance tout risque.
Oui, c'est une assurance, au cas où on aurait l'idée saugrenue de le changer de poste.
Voilà. Oui.
Donc, personne ne va changer de poste. Hein. Truman va renoncer, Eisenhower va renoncer, Kennedy pareil. Hein. Donc, il va mourir en 1972.
Ce dossier est très bien construit.
et d'ailleurs, s'il avait vécu quelques mois de plus, le Watergate ne se serait jamais produit. Il aurait tout contrôlé. Il est mort juste avant.
Comment aurait-il pu contrôler, c'est-à-dire, ça aurait été mieux conçu?
Bien sûr, il aurait étouffé l'affaire.
Il aurait su étouffer l'affaire.
Bien sûr. Au début, c'était une histoire de rien du tout.
Oui.
C'est après, l'enquête des journalistes, ils ont monté ça en épingle, effectivement, oui. C'est devenu une affaire d'État. Au début, il aurait tout étouffé dans l'œuf.
Et comment aurait-il fait, d'après vous, pour étouffer dans l'œuf? Il aurait fait ce qu'il fallait auprès des journalistes.
Vous savez, le FBI est aussi compétent que la CIA pour étouffer les choses.
Hein. Oui.
Faire comprendre que bon, il y a des choses qu'on ne touche pas.
Mmh. Alors, c'est évoquons quand même, si vous voulez bien, ces relations. Alors, vous avez évoqué la carrière d'Éléonore, sa carrière après la mort de son mari, ses postes diplomatiques qu'elle va occuper jusqu'à la fin. Vous avez évoqué ses difficultés financières parce que ses enfants, eh bien, en quelque sorte, dilapident le capital familial. Il nous faut vous évoquer, c'est une part importante de votre livre, hein, Les Roosevelt, une dynastie américaine que vous publiez chez Perrin. Ce sont ces relations entre Éléonore et ses amies. Et ses amies féminines.
Et oui, les amies féminines.
Que faut-il alors? Que diriez-vous que...
On ne sait pas le fin mot de l'histoire, ça n'a jamais été révélé de manière formelle. Mais enfin, on se doute bien quand même qu'elle avait des amitiés, qu'elle est au-delà de l'amitié.
Oui.
Avec certaines femmes. Et donc, elle était bi, comme on dirait de nos jours.
Oui.
Dans le meilleur des cas. Mais effectivement, c'était aussi pour elle un moyen d'affirmer son indépendance. Croyant peut-être aussi choquer Franklin, mais Franklin, la famille n'est pas en train de choquer. Il dit bon, c'est son affaire, après tout.
Il ne s'en occupait pas.
Elle me fiche la paix pendant ce temps-là. Voilà.
Lui, ce qu'il voulait, c'est d'avoir la paix, mener ses affaires.
C'est la paix, voilà.
Il voulait
la paix. Il avait son cercle à lui, il avait ses petites amies à lui, et donc, ça se passait comme ça.
Oui, il était malade, mais pas diminué, en fait. Hein.
Ah non.
c'est ce que, en effet, on peut... Et parmi ses amis, il y a peut-être une ou deux personnalités que... Vous voudriez, des amis d'Éléonore, bien sûr, hein, que vous voudriez évoquer particulièrement.
Il y avait une journaliste qui était très importante à l'époque, dont j'ai oublié le nom du reste. Et puis en plus, une autre amie qui était une héroïne de l'aviation.
Amélie Earhart.
Voilà.
Ah oui.
Et Amélie Earhart, qui est malheureusement a trouvé
une mort
tragique dans l'océan, probablement.
Ah oui.
Franklin a dépêché des tas de gardes-côtes pour essayer de. Ils n'ont jamais découvert. Comme Mermoz, comme beaucoup de gens, c'était l'aviation qui en était quand même C'est début. Hein.
Alors, il y a deux questions que j'aimerais vous poser. Il nous reste encore 5 minutes à passer à votre compagnie, Georges Veillache. Et nous allons conclure, bien sûr, sur ces dynasties américaines, les Roosevelt, que vous comparez dans la conclusion à la dynastie des Kennedy. Tous les deux s'éteignent. Mais j'aimerais quand même vous interroger sur la popularité d'Eleanor aux États-Unis. Vous dites que c'est la femme la plus populaire en son temps. Aux États-Unis, j'aimerais bien en connaître les raisons.
Parce que toutes les femmes de président jusqu'alors, à une exception près, c'était l'épouse de Madison, James Madison au 19e siècle, Dolly Madison. À l'exception de Dolly Madison, toutes les femmes étaient falotes, étaient ternes, sans relief, sans... Elle, pour la première fois, on a une femme qui a de la personnalité, qui a de la culture, qui a une volonté... d'apparaître et d'exister. Et ça, c'est nouveau. Et c'est ça qui marque les États-Unis, jusqu'à Jackie Kennedy. Hein. Parce qu'après, après Eleanor, on va avoir la famille Eisenhower, qu'on appelle Mamie Eisenhower, ça veut dire. Donc, c'est Jackie Kennedy qui donne une nouvelle impulsion à la First Lady. Mais la première, à l'époque moderne, à avoir affirmé ce rôle-là, c'est Eleanor. Elle était comme elle était. Elle avait les défauts qu'elle avait, comme tout le monde d'ailleurs, mais ça, on ne peut pas lui retirer.
Et qui a marqué plus son époque finalement, Franklin ou Eleanor?
Franklin.
C'est comme ça reste Franklin.
C'est le pouvoir.
Quel est son héritage?
Pratiquement rien. Pratiquement rien. C'est-à-dire que le New Deal est perçu maintenant de jour plutôt comme un repoussoir, et toute la suite le montre, mais... N'était-ce pas nécessaire à l'époque où il a promulgué? C'est ça qu'on veut dire. Il faut en faire une question de doctrine, il faut en faire une question d'opportunité.
4 millions d'exemplaires, les mémoires d'Eleanor Roosevelt.
Ah oui, c'est plus que
vous les avez lus, j'imagine.
Oui, je les ai lus.
Quel intérêt, quand on les lit, on comprend ces 4 millions d'exemplaires?
Pas forcément. D'ailleurs, on lui a proposé de faire une suite, elle n'a pas voulu. Parce qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Mais aux États-Unis, l'édition va au gonfle très vite. Hein. Obama a dû en vendre, je ne sais pas combien, mais au moins le double.
Nous arrivons au terme de cette entrée. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais vous poser encore deux questions. Quelle comparaison faites-vous entre ces deux dynasties, Roosevelt donc, et Kennedy? Toutes les deux sont éteintes, pour des raisons bien sûr différentes. Comment les comparez-vous?
C'est pas comparable. Pas comparable parce que la dynastie Roosevelt, elle s'étend sur 300 ans. Celle de Kennedy commence à la fin du 19e siècle, pratiquement.
Oui.
Donc, ça, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus... ça ne se fait pas par stratification successive, comme les Roosevelt, mais par coups. Ce sont des coups. Joe Kennedy est un homme de coups. Et donc, il s'enrichit très très vite, et par des moyens souvent limites, ce qui n'était pas le cas des Roosevelt. Donc, c'est une dynastie enracinée dans la vie américaine, dans la société américaine, les Kennedy, non. Les Kennedy, c'est typique de l'époque qu'on va connaître à la fin du XXe siècle.
Et je vous propose de terminer par Théodore, qui est devenu une cible de choix de la cause woke et racialiste. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il lui reproche à Théodore?
Ce qui est scandaleux, parce que c'est l'inventeur de l'écologie aux États-Unis. Hein. Les parcs nationaux, c'est lui qui les a créés. Bon. Oui, on lui reproche une chose, c'est que à l'époque, aux États-Unis, il faut bien se dire que le racisme, c'était de bon ton. C'était quelque chose qui allait de pair. On était raciste vis-à-vis des Indiens, des Amérindiens. On était raciste vis-à-vis des Noirs, et ça ne posait pas de problème. Et Roosevelt ne l'était pas plus que d'autres.
Donc Théodore.
Théodore, oui.
Oui.
Mais ne l'était pas moins que d'autres non plus. Donc il y a eu des phrases qui ont pu choquer. Par exemple, il s'est fait construire une statue devant le Smithsonian Museum à Washington, où il apparaît à cheval et à pied marche un Indien en noir. Donc il est évident que ce genre de cliché, ça lui fait du tort, mais c'est injuste parce qu'il n'était pas raciste. D'ailleurs, il y a un noir qui est rentré à son gouvernement. C'est le premier, notamment. Non, il était un homme de son temps, si vous voulez.
Et cette statue de Théodore à cheval n'a pas
non,
été...
Non, il l'a enlevé.
Ah, il l'a enlevé.
Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Et le descendant, Théodore Roosevelt IV, s'est excusé pour ça auprès des Américains.
Ah bon, le descendant s'est excusé.
Ils en sont là.
Ça, c'est affreux. Quelle différence entre Théodore Junior et Alice qui ont défendu bec et ongles la mémoire de leur père.
Alice défendait les Noirs. Hein. Elle faisait scandale partout où elle passait sur cette question-là. Elle était intransigeante.
Oui. Donc,
non, ils n'étaient pas racistes, si vous voulez. Les woke saisissent n'importe quel bout de polémique pour faire mousser. Mais...
Eh bien, Georges Ayache, merci beaucoup d'être venu ce soir en direct dans notre studio pour évoquer la deuxième partie de cette dynastie des Roosevelt avec la vie de Franklin, de son épouse Éléonore, mais aussi les enfants de Théodore Junior et la brillante Alice, telle que vous le faites dans ce livre passionnant, Les Roosevelt, une dynastie américaine que vous publiez aux éditions Perrin. Je vous dis donc... Merci. À très bientôt, au retour de la mafia américaine. Nous attendons de pied ferme, Georges Ayache, pour aborder ce sujet. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.